Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Résultat. On va bien sûr aborder les résultats du week-end des équipes charentaises hein, qui ont été plutôt positifs. Mais avant d'évoquer ces résultats, on va parler du Culture Sport où nous avons reçu Gilles Roufigna, le président du district de la Charente. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter un petit teaser de son interview dont l'émission sera retrouvée en intégralité dans une dizaine de minutes.
Alors les demi-finales sont tirées mercredi 22. Elles sont tirées au district à 19h et les clubs qui sont qualifiés vont être invités. Et puis pour les autres clubs, bon, on relayera sur notre page Facebook. Alors, sous réserve de la validation des résultats par la commission compétente, et qui doit être en train de les valider à l'heure où on se parle, les qualifiés pour le dernier tour avant la finale sont... Alors pour la Coupe de la Charente, Crédit Agricole, Trophée Maurice Brachet, on a deux clubs de D1, Basso et Brie, oui. Et on a deux clubs de D2, Verdille et Linard. Pour des clubs qui se tiennent bien aussi en championnat, donc ceci explique cela. Pour la Coupe du District, Crédit Agricole, Trophée Pierre Labonne, l'ex-Coupe Edly, on a un club de D5, Croix-en-Cognac, qui est un club qui s'est lancé cette année et qui a des ambitions, tant en Coupe qu'en championnat. Belleville, l'Atlético de Belleville, qui est en D4, qui l'an dernier était en D5. Donc là, on peut dire qu'on a deux clubs qui sont un peu nouveaux dans notre paysage. Et puis Chabanais en D4 et Champagne-Mouton en D4 également. Des clubs qui se tiennent très bien aussi en championnat. Et puis la dernière coupe, c'est la Coupe des réserves Crédit Agricole Trophée Jacques Debrie. Eh bien, on a, pour qualifier, alors, toujours pareil, sous réserve de l'homologation des résultats, Champigny C, l'île des Pagnacs B, l'Alliance 3BC et Saint-Brice C. Donc il y a eu des matchs disputés ce week-end et voilà les résultats donc pour les demi-finales qui se dérouleront le 8 et le 9 avril.
Voilà, donc ça ce sera dans une dizaine de minutes. On va bien sûr aborder les résultats des clubs charentais en commençant par la CFC qui s'est déplacée au Stade Bordelais, un match important pour les Angoumoisins qui après une semaine de repos eh bien devaient poursuivre sur leur dynamique positive. On rappelle que les Angoumoisins avaient fait sur leurs 10 derniers matchs seulement une défaite, eh bien ça fait 3 points de plus au compteur des Angoumoisins puisque les hommes de David Jiguel se sont imposés au Stade Bordelais 2-1, deux buts marqués par Thierry Lemaitre, un en première mi-temps et un en deuxième mi-temps, qui permettent eh bien, à la CFC de s'imposer 2-1 malgré le but de Ludovic Gasparotto en fin de match. Ludovic Gasparotto, l'ancien joueur de la CFC, eh bien, ce sont les Angoumoisins, les Charentais, qui prennent 3 points très importants au classement, puisque les quatre premiers même n'ont pas gagné, ce qui permet à la CFC de gratter une place au classement. Je vais donner les scores des matchs qui se sont joués ce week-end avec la victoire de Bourges à Gaul 1-0, la victoire de Vierzon contre Lorient 1-0, la victoire de Romorantin à Chamalières 1-0, le match nul entre Les Herbiers et Nantes 2-2, la victoire de Trélissac à Saumur 1-0, la victoire de la CFC au Stade Bordelais 2-1, la victoire d'Angers à Bergerac 2-1 et le match nul entre Moulins et Andrézieux 1-1. Au classement, premier, les Herbiers 38 points, deuxième, Gaul 37 points, troisième, Bergerac 35 points, et on retrouve donc la CFC quatrième avec 32 points. 32 points, c'est 7 points de mieux que Andrézieux, qui est l'actuel premier relégable. 12e avec 25 points. Prochain match pour la CFC, samedi, 18h, la CFC va recevoir une équipe en forme du moment, puisque la CFC recevra Angers, la réserve d'Angers, qui a été gagnée aux Herbiers et qui a été gagné à Bergerac récemment, donc un match très compliqué pour les Angoumoisins. Angers qui est 5e au classement, donc ça va être la confrontation du 4e contre le 5e et ce sera donc samedi à 18h au Stade Lebon. En Régional 1, quelques matchs en retard qui devaient se jouer, avec notamment le déplacement de la réserve de la CFC à Fétia. Après une belle victoire hein, la semaine dernière contre Boulazac, eh bien les hommes de David Perrier ramènent un bon point de Fétia. Match nul 0-0, un match nul qui permet justement aux Angoumoisins de faire avancer le compteur points et donc de prendre leur 26e unité. Les Angoumoisins sont 7e au classement et ont une petite marge d'avance par rapport à la zone rouge, donc à confirmer le week-end prochain à Ille qui est 9e au classement avec 7 points de retard sur la CFC. Donc en cas de non-défaite du côté de la Haute-Vienne, eh bien les Angoumoisins feraient un nouveau pas vers le maintien. Dans cette poule A, B de Régional 1, c'est Brive qui est en tête avec 37 points, soit 3 points d'avance sur Mérignac et ça. En niveau R2 et R3, il y avait quelques matchs en retard également. Victoire donc de Soyaux 5-0 contre Verneuil-sur-Vienne. Défaite malheureusement de Conflans 2-1 à domicile contre Saint-Benoît. Victoire de Ruffec à Limoges Viginal 3-2. Et victoire de Puymoyen à Thénon-Limera 4-0. En district, on jouait donc la 16e journée du championnat avec donc Brie et la Couronne qui font 2 partout. Moutier gagne à rouler 1-0. Champigny et l'Alliance 3B qui font 1 partout. Basso, bah les Portugais du Gon 4-2. Saint-Michel et le Roi 2 partout. Et enfin, victoire de Merpin à l'Essac 3-0. Au classement, Champigny est en tête avec 32 points. Devant Saint-Michel, 30 points à égalité avec Basso. En D2, en poule A, victoire de Saint-Arieix contre Chasseneuil 1-0. Victoire de Montbron à Bélair 2-1. Match nul entre Ruffec et Verdi 2 partout. Victoire de Aigre contre Mansle 1-0. Victoire de Charente-Limousine contre La Roche-Rivière 6-2. Et victoire de Mornac 4-2 contre Sireuil. Au classement, Sireuil reste en tête avec 31 points. Deuxième, Chasseneuil 28 points. Troisième, Bélair 24 points. Quatrième, Mornac, 22 points. En poule B, victoire de Champigny à Montmoreau, 1-0. Match nul entre Châteauneuf et Jarnac, 1 partout. Victoire de Saint-Séverin contre Chazelle, 3-1. Le club de Saint-Séverin qui a rendu hommage à Flo Flo, son joueur malheureusement décédé dans un accident de la circulation. Tout le club lui a rendu hommage tout le week-end. C'était une reprise pour Saint-Séverin au niveau des matchs. Linard s'impose à Ruel 2-0. Saint-Brice s'impose contre Nersec 2-1. Et enfin, Grande Champagne et Sud-Charente font 1 partout au classement. Premier Linard 37 points, deuxième Jarnac 34 points, troisième Grande Champagne 31 points. On rappelle la victoire du SA15, le match que nous avons débriefé dans le SA15 Magazine avec Fred. Victoire du SA15 contre Grenoble 21-16. Le SA15 qui fait une bonne opération en termes de classement. En basketball, malheureusement, défaite de la Couronne Basket contre Saran à domicile. Défaite 48-52. Dommage pour la Couronne qui s'est bien battue mais qui s'incline face au troisième de 4 points. La bataille pour le maintien se poursuit même si ça devient plus compliqué dans le sens où la Couronne a désormais 2 victoires de retard sur Rié et 1 victoire de retard sur Chantonnay. En pré-nationale masculine, eh bien la CTC Grand Cognac n'a pas joué puisque Limoges Landouge a déclaré forfait, donc victoire de CTC Grand Cognac 20-0. Dans le même temps, la réserve du CSP Limoges s'impose à Aix-sur-Vienne 81-66. Donc la réserve du CSP Limoges est toujours en tête avec une victoire d'avance sur la CTC Grand Cognac. Mais on rappelle que la CTC Grand Cognac a un match en retard à rejouer du côté de Saint-Gros-Gatien. Donc on pourrait revoir les Cognacés revenir à égalité avec les Limougeaux. Pour presque terminer, on va parler du tournoi de judo pré-poussin organisé par la Couronne. C'était du côté de Roulé, la Couronne Grand Emblème Judo qui a organisé un grand tournoi avec plusieurs catégories. Alors je vais donner les gagnants dans chaque catégorie. Donc avec en poussine, victoire de Ilana Piechnik, victoire de Victoire Gauthier, Mathilda Jansem qui remporte également la première place, Anda Bester donc première également. En poussin, Yanis Billet qui est premier, tout comme Naël Roche, Gabin Gamakurta, premier également, Arthur Ruiz, premier également, Timéo Bourbon, Lucien Balu, Mohamed Daoudi, Néo Bruno, Jake Pekam, Damaël Denis, Benjamin Deloffre, Adam Mazouzi, Carter Jack, Gaylan Khalil et en mini poussin pour terminer, victoire de Safinia Madi et de Odyssée Gauthier. On va terminer par le trail du côté du château de la Mercerie avec la victoire de Cédric Tournabien. Le Cognacé est bien connu dans le monde de l'athlétisme en Charente. Enlève sans surprise ce premier trail à élimination autour de la Mercerie. Donc victoire du Cognacé sur ce trail. Et puis nous on va se retrouver la semaine prochaine pour des nouveaux flash résultats. Et en attendant, tout de suite on retrouve Gilles Roufinia avec Didier et moi-même. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello, bonjour à tous, c'est Attitude, votre radio en Charente, 98.3, 90.7, www.attitudefm.com, c'est votre émission Culture Sport, samedi 19h, 20h30. Nous accueillons aujourd'hui le président du district Gilles Roufignan. Gilles, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bien, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs.
J'accueille Christian, donc, qui est là pour lancer le débat. Christian, bonjour, bienvenue.
Bonjour Didier, et on va parler bien sûr du district de la Charente.
Et on va parler du district de la Charente. Donc, je te laisse le soin de lancer la première question, Christian.
Oui, mais Gilles, on t'avait reçu déjà cette saison. C'est la deuxième fois que tu nous fais le plaisir de partager une grosseur avec nous. C'était, il me semble, en octobre. Est-ce qu'on peut faire un petit point depuis sur le sportif, un peu tes impressions sur ces championnats de ligue, de district, et puis surtout l'actualité brûlante, hein, c'est les finales, les coupes où on a joué les quarts de finale ce week-end.
Oui, alors on va parler de tout ça. Alors plus que de parler du district, moi je préfère qu'on parle des clubs et du football en général. Donc depuis notre dernière interview, bah, je rappelle que notre devise, qui est notre ligne de conduite, est toujours la même. Proche des clubs, à l'écoute et utile. Et tout ce que l'on mène comme action a pour vocation à être dans cette dynamique. Alors, point de satisfaction, on n'a pas de retard sur nos compétitions. Il y a eu peu d'intempéries, et ça tant mieux.
Oui, il n'y a qu'une seule journée de reportée intégralement.
Voilà, c'est ça, oui. Donc, on a eu peur pendant un temps, mais ça se passe bien. Croisons les doigts. Autre point de satisfaction, j'avais présenté quelques priorités au mois d'octobre, c'est-à-dire un plan de relance de l'arbitrage, une relance de la pratique féminine et la lutte contre les incivilités. Donc, nous menons des actions, je pense qu'on les développera tout à l'heure. Et puis, l'indicateur de tout ça, ben, on est stable au niveau des licences, puisque à fin février, donc, et de date à date, c'est-à-dire entre février 2023 et février 2022, ben, on a un total de licences stable à plus 1,21%, donc on va dire c'est stable. Ça représente 12 249 licenciés. Et si on ne prend que les pratiquants, on est à 0,34, on est à 10 042. Ça veut dire qu'on a, un espoir logique, pratiquement certain, de finir avec des effectifs au minimum comme ceux de l'an dernier. Peut-être y aura-t-il une petite augmentation, mais ça sera vraiment plutôt de la stabilité. Alors, on a, puisqu'on parle de licence, on a des secteurs qui marchent moins bien que d'autres et d'autres qui marchent mieux. On a quelques pertes en senior et en U19. Là, on a une érosion un peu inquiétante. En féminine aussi, globalement. Par contre, dans les catégories jeunes, féminines et garçons, on a des augmentations. Et il y a deux points en dehors des pratiquants qui sont très intéressants. Plus 8,6% d'arbitres et plus 6% de dirigeants, dirigeantes. Alors, ça, c'est juste pour dire que, pour tordre un peu le cou à leur humeur, quand on dit il y a de moins en moins de bénévoles, de moins en moins de dirigeants, globalement, ça n'est pas vrai, même si tel club peut constater une perte de licenciés. Donc voilà, donc sur le plan de l'état d'esprit général, avant de parler du sportif, je suis plutôt satisfait de la saison telle qu'elle se déroule.
Et avant de parler du sportif, tu as parlé de l'arbitrage. C'est vrai que moi, je parcours différentes pages Facebook de clubs et on voit beaucoup d'initiations à l'arbitrage et on voit surtout des arbitres qui deviennent arbitres de plus en plus jeunes.
Oui, absolument. Alors, si tu veux bien, Christian, on va parler
on du en parlera
sportif
plus tard.
Et oui. Tout à l'heure, parce que ça faisait partie, le plan de relance de l'arbitrage faisait partie de nos priorités. Oui. Donc, je vous dirai ce qu'on a fait, mais effectivement, ce que tu constates sur les pages Facebook est une réalité.
On va parler des coupes. Donc, les trois coupes principales seniors. Donc, on a fait les quarts de finale. La première question que je me posais à titre personnel, quand seront tirées les demi-finales?
Alors, les demi-finales sont tirées mercredi 22. Elles sont tirées au district à 19h et les clubs qui sont qualifiés vont être invités. Et puis, pour les autres clubs, bon, on le verra sur notre page Facebook. Alors, sous réserve de la validation des résultats par la commission compétente, et qui doit être en train de les valider à l'heure où on se parle. Les qualifiés pour le dernier tour avant la finale sont... Alors, pour la Coupe de la Charente, Crédit Agricole, Trophée Maurice Brachet, on a deux clubs de D1, Basso et Brie, oui. Et on a deux clubs de D2, Verdi et Linard. Bon, des clubs qui se tiennent bien aussi en championnat, donc ceci explique cela. Pour la Coupe du District, Crédit Agricole, Trophée Pierre Labonne, l'ex-Coupe Edly, on a un club de D5, Croix et Cognac, qui est un club qui s'est lancé cette année et qui a des ambitions, tant en coupe qu'en championnat. Belleville, l'Atlético de Belleville, qui est en D4, qui l'an dernier était en D5. Donc là, on peut dire qu'on a deux clubs qui sont un peu nouveaux dans notre paysage. Et puis Chabanais en D4 et Champagne-Mouton en D4 également. Des clubs qui se tiennent très bien aussi en championnat. Et puis la dernière coupe, c'est la Coupe des réserves Crédit Agricole Trophée Jacques Debry. Eh bien, on a, pour qualifier... alors. Toujours pareil, sous réserve de l'homologation des résultats. Champigny C, l'île des Pagnacs B, l'Alliance 3BC et Saint-Brice C. Donc il y a eu des matchs disputés ce week-end et voilà les résultats donc pour les demi-finales qui se dérouleront le 8 et le 9 avril.
Oui, est-ce que tu peux nous rappeler en même temps la date des finales à Lebon ?
C'est le samedi 20 mai. Tout à l'heure en conclusion, si vous me posiez la question de nos prochaines dates de manifestation, je le rappellerai.
Oui, ce sera l'occasion de le rappeler, c'est toujours bien de rappeler les choses. Et c'est vrai, comme tu le précisais, il y a beaucoup de rencontres qui sont terminées par un but d'écart ou par une séance de tir au but. Ça veut dire que les matchs ont été disputés et vraiment très homogènes.
Tout à l'heure, j'évoquais Croin. De mémoire, il me semble que Croin a dû être mené, il me semble, à 5 minutes de la fin, qu'ils ont égalisé pratiquement dans les arrêts jeux et qu'ils sont qualifiés au tir au but. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tirs au but dans ces quarts de finale de coupe.
Pour fermer le chapitre des coupes, c'est vrai que vous diffusez désormais les tirages au sort sur soit sur le site de la Charente Libre, soit sur votre page Facebook. Est-ce que tu es satisfait un peu de cette opération? Est-ce que le public adhère? Est-ce que vous avez beaucoup d'audience, notamment lors de ces tirages?
Oui. Alors. Ça intéresse, dans les huitièmes, dans les quarts, on a plus de clubs qu'en demi parce que les clubs sont plus concernés. Ça permet quand même à des clubs, quand on habite à Champagne-Mouton, à Chabanais, à Barbezieux, je comprends qu'on n'ait pas toujours la disponibilité pour se déplacer. Donc les clubs, à la fois, se déplacent bien. Le tirage des huitièmes et des quarts avait eu lieu chez le Crédit Agricole, qui est notre partenaire. Il y avait une cinquantaine de personnes de présents. C'était très bien, mais ceux qui n'ont pas pu venir l'ont vu sur Facebook, donc c'est plutôt intéressant comme action, oui, effectivement.
Oui, ça permet vraiment de relayer l'information en temps réel.
Puis voilà, je crois que les gens, ils aiment bien, ils peuvent pas se déplacer, ils aiment bien quand même. Avant, ils allaient sur la page du district, ils attendaient le lendemain, ils attendaient qu'on les informe. Maintenant, ils ont l'info en direct. Donc il y aura aussi un relais mercredi prochain, il y aura un relais. Alors il se fera au minimum par la page Facebook du district, et j'ai contacté Charente Libre pour leur proposer de faire le relais. J'attends leur réponse, mais voilà, dans tous les cas, les amateurs de foot et de coupe auront l'information.
Bon, très bien, et puis comme je suis un amateur de tirage au sort, j'aime beaucoup ça, je regarderai avec grand plaisir.
Christian, t'es même invité, je te ferai un mail après l'émission, mais t'es invité à venir au tirage au sort des coupes. Sans problème. D'accord.
Eh ben avec plaisir. Par rapport aux sportifs, nous on s'était croisés au stade Lebon avant le match à CFC Les Herbiers. C'était aussi l'occasion pour certains bénévoles d'être invités par le district. Déjà, à titre personnel, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre 0-0, mais un bon 0-0 globalement. Et puis deuxièmement, j'imagine que pour des licenciés du district de venir voir la CFC un vendredi soir à Lebon, ça a été une belle fête.
Oui, alors il y a deux aspects dans ta question. Je commence par le sportif. Le sportif, je crois que c'est, et puis d'ailleurs ça a été dit y compris par l'entraîneur de la CFC, compte tenu des circonstances, puisque rappelons que d'abord les Herbiers étaient bien placés au classement. Deuxièmement, il y a eu un expulsé relativement vite, je crois, dans la première demi-heure à la CFC. Donc 0-0. Un bon match nul, avec, je dirais, plus d'occasions pour la CFC. Avec un petit peu de réussite, ils peuvent gagner le match. Donc c'est vrai que sportivement, le stade était assez garni, donc c'est intéressant. Pour revenir sur l'opération qu'on a menée, tous les mois pendant la saison, on fait le portrait d'un bénévole du mois. Donc c'est une action qui a pour objectif de valoriser l'engagement bénévole dans nos clubs charentais. Et l'an dernier, on n'avait pas fait d'action particulière pour les remercier. Donc on a décidé de les inviter au match, avec à la fois le match et puis un dispositif convivial à la fin. Donc ça a été apprécié. Moi, j'ai un président de club, alors je ne vais pas dire de quel club, mais de la région de Confolens, qui m'a dit, écoutez, merci au district de nous avoir invités. Je n'étais jamais venu au stade Lebon. Alors, par contre, il était venu au stade Chanzy. Donc, tu vois un peu, Christian, les années dans lesquelles ça remonte aux années 70-75, quand l'AS Angoulême jouait à l'époque en première division. Puis je crois qu'il m'a dit qu'il avait vu Marseille ou Saint-Étienne. Voilà.
Donc, oui, c'est à l'époque des beaux parcours en Coupe de France.
Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, il a bien apprécié. Moi, je suis content. Peut-être qu'on le refera l'an prochain ou on trouvera une autre idée. Mais voilà, d'allier le sportif et puis la reconnaissance qu'on doit avoir à nos bénévoles, je trouve que c'est normal et ça permet de partager.
Bon, et puis forcément, d'un club locomotive à un autre, malheureusement, pour Cognac, ça va moins bien, dans le sens où la saison en R1 est compliquée. C'est une équipe qui lutte pour maintien et puis malheureusement, le club est touché par des soucis extra-sportifs. Toi, quel regard tu as un peu
J'étais présent à l'Assemblée Générale de Cognac samedi matin. J'avais été invité par les co-présidents. Alors juste pour l'aspect sportif, bah effectivement à R1, la CFCB est septième. Voilà, est septième à 14 points de l'avant-dernier, puisque le dernier c'est Mussidan, mais qui n'a que 3 points. Et Cognac, c'est un peu plus difficile. Cognac est dixième voilà, avec seulement 6 points sur l'avant-dernier. Alors ça c'est le sportif. Moi ce que je retiens de l'AG, d'abord l'AG c'est globalement bien passé, hein, parce que c'est toujours un petit moment un peu, quand il y a des problèmes dans un club, ça peut être l'objet de tensions. Moi j'ai trouvé des dirigeants responsables, transparents, responsables, des éducateurs à travers l'entraîneur Alvin Henry, qui sont très présents, qui sont très engagés, qui font des efforts, hein, qui sont passés sur plusieurs mois sans indemnité, mais voilà, mais bon, de ce point de vue-là, ça s'arrange. Des parents motivés pour les écopes de jeunes, donc c'est porteur d'espoir sur l'envie du club de s'en sortir. Bon, après, effectivement, la situation, elle est parue dans la presse, hein, le club, le président, l'un des deux coprésidents a été mandaté pour faire une déclaration de cessation de paiement, hein, il y a, je crois, environ 200 000 euros de dette. Donc maintenant, après, la balle sera dans les mains du tribunal. Bon, ce que ça m'inspire, j'ai deux commentaires. Un, et ça dépasse largement le cas de Cognac, hein, c'est d'une façon générale la difficulté à faire cohabiter un projet sportif, un projet économique et un projet associatif. Je veux dire, c'est très très difficile. Et puis la deuxième, eh bien, c'est une réflexion certainement sur le modèle économique des clubs, c'est-à-dire sur comment ils vivent, puisque un des gros points noirs de la situation de Cognac, et je trahis pas de secret puisque le président, enfin le co-président l'a dit, c'est un manque flagrant de recettes de sponsoring et de mécénat, quoi.
Voilà. Oui, il y a une spécificité sur Cognac, Gilles, parce que quand on sait que le rugby est dernier et en crise financière, l'ALJO, donc le handball, est dernier et en crise également. Donc il y a peut-être bien une spécificité cognacaise là-dessus, non?
Oh non, je crois pas. Non, je crois pas. À mon avis, ça serait un raccourci. La seule peut-être spécificité qu'il peut y avoir, c'est que Cognac est quand même un bassin économique qui est porté par le Cognac, mais que malheureusement avec la loi E20, ils n'ont plus les mêmes ressources qu'ils avaient. Moi, je me rappelle avoir joué il y a très 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 longtemps en corpo contre l'équipe de Martel ou d'Annecy, même dans des équipes corporatives, ils avaient d'autres moyens financiers. Donc voilà. Donc je crois pas que ce soit le territoire de Cognac qui soit qui soit visé en termes de pratique. C'est plus voilà, un contexte économique qui n'est pas facile. Et puis rappelons aussi, hein, je crois qu'il faut le dire, que le Covid a fait mal dans les associations en général et dans les associations sportives en particulier.
Vous avez choisi d'écouter Attitude. Merci de votre fidélité. Attitude, c'est 98.3, 90.7, www.attitude.com. Vous êtes bien dans Culture Sport. Nous recevons Gilles Rouffignat, président du district de la Charente, et qui répond aux questions de Christian.
Pour terminer sur le point sportif, ce qui jalonne un peu cette saison 2022-2023, c'est la réforme des championnats de la Fédération française de football avec surtout beaucoup de descentes. Alors oui. Comment c'est vécu par les clubs? Et puis c'est vrai qu'on a notamment en R2 des clubs qui sont assez en difficulté sportivement.
Oui, alors c'est surtout où ça va impacter. Alors d'abord, la réforme des championnats va se faire sur deux saisons. Une partie cette saison et l'autre partie après. Là cette année, ce que l'on sait, c'est qu'il y a par poule de R3, il va y avoir 3 descentes par poule et les 9 plus mauvais 9e. Alors, tu me parles de R2, on va en parler rapidement. En R2, on a un club en poula qui se comporte très bien, c'est le Roi. Le Roi qui est second, donc là, pas de souci. Après, en poule B, on a l'Abbé de Cognac, donc qui est dernière, hein, et là ça va être très très difficile. On a Charente Limousine qui est quatrième, donc on peut penser que pour Charente Limousine il n'y a pas trop de difficultés. Et Mertin qui est huitième, mais avec un nombre de points quand même assez important. Donc dans cette poule B de R2, inquiétude pour Cognac. Alors au passage, si la A de Cognac venait à descendre en R2,
la B serait automatiquement reléguée, oui, effectivement.
Voilà, ce que, bien entendu, je ne souhaite absolument pas au club. Et puis, en poule C de R2, donc là, c'est un peu plus délicat, parce que à la 10e place, on a Sireuil avec 19 points, à la 11e, Jarnac avec 16 points. Alors, le tout dernier, c'est Estuaire,
Haute-Gironde,
qui n'a que 4 points, ils n'ont qu'une victoire. Et devant Sireuil, Nanton, Saint-André de Cubzac sont à 1 point et Saint-Émilion à 2 points. Donc, ça peut évoluer. Aujourd'hui, ils ne sont pas bien, ils sont plutôt mal classés, mais ça peut évoluer. Alors, je reviens à la R3, puisqu'on a donc 3 poules qui concernent des clubs charentais. Dans la poule C, on a Confolens qui est 5e. Avec 8 points d'avance sur le premier relégable, donc ça paraît aller dans le sens du maintien. Avec devant, j'allais oublier, qu'il m'excuse, le Stade Ruffécois, oui, qui est 3e. Donc en poule C, on a Ruffec 3e, Confolens 5e. Croisant les doigts pour dire que là, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés, sauf catastrophe.
Confolens, qui est d'ailleurs premier du 10e championnat, parce que cette poule est très morcelée, et on a les 4 premiers qui ont pris le large, avec notamment Ruffec, qui lutte avec notamment Limoges, tout simplement.
Ouais. Après, c'est un peu plus compliqué dans les deux autres poules. En poule F, puisque je rappelle qu'il y a les 3 derniers qui descendent, et parmi les 9 moins bons, 9e. Donc là... en poule B, Saint-Eriex caracole en tête, 10 points d'avance sur le deuxième, un club de Dordogne, Coulounier-Chamier.
Oui.
Vindel est 5e, c'est bien pour eux. Soyaux 6e, c'est bien pour eux. La Roche-Rivière 7e avec 20 points.
Et la Roche-Rivière qui d'ailleurs fait une très belle remontée parce qu'ils ont longtemps été avant-dernier.
exactement. Donc, on a en position de descente, on est en 12e Tenon, un club de Dordogne, oui. 11e Ruel, 10e Puymoyen, mais entre Puymoyen, 10e et La Roche-Rivière, qui est 7e, il n'y a que 3 points. Donc, ça peut aller très très vite, mais nos clubs sont plutôt là dans la deuxième partie. Et puis, en poule G, l'Alliance 3B, là aussi, caracole en tête, avec 16 points d'avance. Donc, je ne vois pas comment l'Alliance 3B ne pourrait pas monter en R2 l'an prochain.
Hein. Ils font un super parcours. Il me semble que c'est 16 matchs, 15 victoires et un match nul seulement.
Alors, 16 matchs, oui, c'est ça. 61 buts pour et 10 contre.
Ouais.
Donc, ça fait quand même une différence de buts de 51 qui est assez extraordinaire. Donc, si on regarde les R3, on a deux clubs qui normalement doivent monter en R2 l'an prochain, c'est Saint-Eriex et Alliance 3B. On a le Ruffec qui frappe à la porte. Oui. Et après, on est plutôt dans des luttes pour ne pas descendre.
Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, je précise que c'est des résultats que l'on donne sur Attitude tous les lundis avant Culture Sport. Donc, on suivra avec attention et puis surtout avec ferveur les aventures de nos Charentais au niveau Ligue. Et puis, qui seront rejoints par deux équipes du niveau district la saison prochaine aussi.
Sur le sportif, pour compléter, en revenir un peu en haut, au niveau du national, du bon et du moins bon. Le bon, c'est la CFC qui fait une belle saison en National 2.
Oui.
Le moins bon, c'est l'AEJ qui est quand même en position très délicate en D1 Arkema.
Le challenge va être très très difficile pour l'AEJ. Hein.
Oui, absolument. Et la baie de l'AEJ, pour finir sur les compétitions régionales, leur féminine, l'équipe B qui joue en Régional 1, se trouve 12e. C'est-à-dire sur une poule de 14.
Peut-être qu'on peut faire aussi un point sur l'AD1, notamment la course à la montée qui concerne 4 équipes, si je me trompe pas.
Oui, parce que les écarts sont quand même... on a premier Champigny avec 31 points, Saint-Michel qui a perdu ce week-end avec 29, donc a lâché un petit peu prise, la JS Basso avec 27 et des sacs avec 26. Après, Alliance 3B est 5e avec 21 points, donc on peut dire que aujourd'hui, les 4 clubs qui sont, puisqu'il y a 14 matchs de jouer, rappelons au total qu'il y en aura 22, donc les 4 clubs qui sont en position de monter, Champigny, Saint-Michel, Basso et les Sacs.
Tout à fait.
Voilà. Et avec, sans rentrer dans le détail, mais avec aussi un championnat de deuxième division qui est très attractif, parce qu'il y a de belles rencontres, il y a de beaux leaders, donc en poule A, on a la baie de Sireuil et Chasseneuil, qui se tirent la boule. Qui se tire la bourre et qui ont 3 points d'écart.
Avec Mornac et Belair en arbitre.
Voilà. Ouais, exact. Belair est 3e avec 24 points et Mornac avec 22 points. Je m'excuse pour la sonnerie de téléphone, c'est fini. Et puis en poule B, on a Linard. Donc qui est demi-finaliste de coupe. Linard avec 34 points premier, Jarnac 33, Grande Champagne 31. Là c'est pareil, la montée en première division se jouera entre ces trois équipes, puisqu'après, ils ont pratiquement 7 points d'écart.
Oui, d'ailleurs pour terminer sur cette poule B de D2, malheureusement c'est vrai que le club de Saint-Séverin-Palluau a été frappé par un drame il y a deux week-ends de ça, avec l'accident mortel d'un de ses joueurs en voiture. Les matchs ont été reportés il y a deux semaines. Est-ce que le club va pouvoir reprendre la compétition? Qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce stade?
Alors j'espère qu'ils vont reprendre. J'étais mercredi aux obsèques de ce jeune Florian. Beaucoup d'émotions. Je crois qu'il y avait plus de 500 personnes. Il y avait deux fois plus de monde sur la place de Salle-Lavalette que dans l'église. J'ai discuté avec Pascal Grangeteau à la fin, enfin un petit mot d'encouragement, et il me dit il va falloir qu'on travaille nos jeunes au corps, parce que il y a eu une haie émouvante à la sortie du cercueil, avec tous les joueurs de la baie, enfin des jeunes, des filles, des qui avaient tous un t-shirt à la mémoire de Flo Flo, comme était son surnom, avec une haie de ballon. Donc vraiment le club souffre, et c'est un club que je connais un petit peu, habitant pas loin, et c'est un club avec de belles valeurs humaines, avec une solidarité. Je pense qu'ils vont s'en sortir, même si effectivement l'émotion va être palpable jusqu'à la fin de la saison.
Sans transition, on va parler forcément de la gouvernance. C'est vrai que c'est ce qui fait un peu les titres des journaux, et puis aussi de la télé ces dernières semaines, avec notamment Noël Le Graët, qui du coup n'est plus président de la Fédération Française de Football. Alors moi, j'avoue que c'est pas les sujets qui m'intéressent le plus, parce que moi je suis plus porté sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ton sentiment en tant que président de district, et puis en tant qu'amoureux du football aussi?
Si on parle de la FFF, c'est dommageable. Pour moi, en termes d'image, pour le foot en général, et puis pour nos nombreux bénévoles, comme je vais parodier un homme politique, je crois que c'était Jean-Pierre Raffarin, moi je dirais qu'il y a le foot d'en haut et le foot d'en bas, et nous, dans les districts, le district, les clubs de Charente, nous faisons partie du foot d'en bas, donc tout ça nous paraît un peu lointain, un peu nébuleux. Il est sûr que la démission de Noël Le Graët était devenue inéluctable, avec en plus une forte pression médiatique, alors non pas locale mais au niveau parisien, avec beaucoup de lobby autour de ça. Je rappelle quand même que Noël Le Graët a beaucoup donné pour le foot, et que le foot se porte bien en termes de licence, en termes de trophées, et que le soutien au foot amateur, quoi qu'on en dise, est important, puisqu'il est cette année à plus de 105 millions d'euros, mais malgré tout cela n'excuse pas les faits qui peuvent lui être reprochés. Juste sur ce point, dernière remarque, je suis quand même surpris que seul Noël Le Graët et le président Sanjak, qui est le président de la Ligue d'Île-de-France, aient démissionné. Je pense que les autres personnes du COMEX, donc le COMEX c'est le gouvernement du foot français, c'est 12 personnes. Pour moi, je pense qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités, et de fait, ils cautionnent le fonctionnement du COMEX. Voilà, c'est dommage. Je pense qu'il aurait fallu que les gens soient capables de démissionner, ce qui aurait conduit à de nouvelles élections. Mais au moins le football, sur le plan de l'image et de la moralité, je pense on serait sorti grandi.
Tant pis pour eux. C'est vrai que en termes local, nous en Charente, on a surtout suivi l'affaire avec Corinne Diacre, puisque c'est quand même une figure emblématique de notre département.
Oui, alors pour moi c'est un dommage collatéral de la crise de gouvernance et de Noël Le Graët. Moi, si tu veux, j'ai trois mots quand j'y pense, je l'ai déclaré à Charente Libre l'autre jour. Oui. Pour moi, c'est scandaleux, c'est injuste et c'est dangereux. Alors, pourquoi c'est scandaleux? La fédération, elle a cédé devant un groupe de pression et devant une campagne médiatique. Donc, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. C'est comme si, dans une prise d'otage, on cédait devant les terroristes. Alors, je compare pas les joueuses à des terroristes, mais c'est juste l'image. Pour moi, ça s'apparente à un délit de faciès. Qu'est-ce qu'on reproche à Corinne Diacre? Beaucoup dans les médias, de ne pas sourire, de ne pas être communicatif, de ne pas aller vers les médias. Mais si, c'est pas ça le rôle d'un entraîneur, ok? Je dirais aussi que les contestataires n'ont pas eu le courage de s'exposer publiquement. Pas une n'a cité le nom de Corinne Diacre, donc c'est facile dans ces cas-là. Et puis, pourquoi scandaleux aussi? La composition du groupe qui a géré le conflit. 4 personnes du COMEX ont été mandatées pour gérer le conflit. Parmi ces 4 personnes, Jean-Michel Aulas, qui est le président de l'Olympique Lyonnais. Or, la fronde était menée par la capitaine de l'équipe de France, qui est aussi la capitaine de l'Olympique Lyonnais. Oui. Donc, en termes de transparence et d'équité, je trouve pas ça très, très bien. Je pense qu'il peut y avoir, en tout cas, en termes d'image, un conflit d'intérêts. J'ai dit injuste. Pourquoi? Corinne Diacre, je pense que c'est une pro. Elle est compétente, elle est engagée, elle est exigeante. Alors, peut-être qu'elle est trop pour certaines joueuses qui sont en fin de carrière. Et puis quand je lis le communiqué qui est sur le site de la Fédération Française de Football, le communiqué officiel, aucun grief, aucun reproche n'est formulé sur Corinne Diacre. Donc c'est quand même un petit peu particulier. Et le troisième point que j'ai évoqué, dangereux, pourquoi ? Ça va faire, à mon avis, jurisprudence.
Oui, alors,
je ne voudrais pas être à la place de l'entraîneur ou de l'entraîneuse qui va prendre l'équipe de France, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un jour ma tête ne leur revient pas, je peux subir le même sort. Voilà.
Oui, donc, parce que c'est vrai qu'au final, là, c'est un peu du chantage en mode, j'arrête ma carrière internationale tant que la sélectionneuse reste en place.
Oui. Alors, avec tout le respect que j'ai pour.
Alors, c'est dit peut-être de manière triviale, mais c'est un peu ça en même temps.
Oui, non, mais t'as raison, Christian. Mais si, je dis, je vais peut-être le. Avec le respect que je dois aux joueuses, et notamment à Wendy Renard, quand j'entends qu'elle demandait le départ du staff pour retrouver sa santé mentale, hein, et puis que les standards n'étaient pas à la hauteur de la préparation d'une équipe nationale, j'espère que ça va lui redonner des ailes, parce que ces standards actuellement de joueuses en équipe nationale sont loin d'être au niveau des standards internationaux non plus. Voilà, donc moi ce que je dis, les résultats à la prochaine Coupe du Monde, eh ben, ils diront si c'est une mauvaise ou une bonne décision.
On rappelle que la Coupe du Monde, ce sera au mois d'octobre, il me semble, hein, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Septembre-octobre en Australie. Et je souhaite, pour finir sur ce sujet de la gouvernance, je souhaite bonne chance à Corinne et qu'elle puisse rebondir très rapidement dans le monde du football, que ce soit autour d'une équipe féminine ou masculine, comme elle l'avait très bien fait à Clermont.
Il faut rappeler que la genèse de Clermont Foot qui monte en Ligue 1 avec Pascal Gatien à sa tête, c'est Corinne Diacre au final qui a lancé ce projet, puisque c'est elle qui avait l'équipe avant qu'elle soit appelée en équipe de France et que Pascal Gatien ne prenne la suite.
Absolument, absolument. Et donc ça veut dire que pour pouvoir entraîner un club de Ligue 2, un club professionnel, il faut avoir quand même satisfait un certain nombre d'examens, d'exigences, de points de passage. Et donc elle a ses diplômes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas douter de la compétence et du professionnalisme de Corinne. Bon, après c'est comme dans tout groupe normalement constitué, il y a des gens qui plaisent, des gens qui plaisent pas. Et puis encore une fois, comme il y a eu pour Noël Le Graët, il y a eu quand même une campagne médiatique orchestrée par les bien-pensants du football. Je pense à l'équipe et à RMC Sport. Qui des fois font peut-être pas tant de bien que ça à notre football, notamment le football d'en bas.
Pour rebondir sur la gouvernance, Gilles, quid des relations entre district et la FNA?
Oui, nous aussi, on vit notre crise de gouvernance, qui est une crise de confiance. On a une position solidaire des 12 présidents de district qui regrettent une gouvernance de la Ligue que je qualifie, moi, d'opaque et à géométrie variable selon les sujets, selon les périodes. Certaines décisions ne sont pas toujours prises en comité de direction de Ligue, voire sont prises sans consultation des présidents de district. Il faut quand même dire que la Ligue fait de bonnes choses, la Ligue et son président et son comité, il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est plus dans la façon de gérer la Ligue, c'est plus dans les relations que se posent les problèmes. Donc c'est pas les actions menées, mais c'est le climat de relations entre président de district et président de ligue. Voilà, c'est des relations difficiles et conflictuelles qui se passent de plus en plus par comité de direction, par voie électronique, par visioconférence. Alors on a eu le 11 février dernier un comité de ligue auquel j'ai pas pu participer, mais qui se faisait en présentiel. C'était le 11 février. Le dernier avait eu lieu le 14 novembre. Donc une ligue avec plus de 1500 clubs et 190 000 licenciés nécessite quand même des relations de proximité. Voilà, mais bon, je le dis, c'est gouvernance et confiance.
Vous avez choisi d'écouter Attitude. Merci de votre fidélité. Attitude, c'est 98.3, 90.7, www.attitude.com. Vous êtes bien dans Culture Sport. Nous recevrons Gilles Rouffignat, président du district de la Charente, et qui répond aux questions de Christian.
On parlait d'arbitrage en début d'émission, on va forcément faire un focus sur les différentes priorités du district, à commencer donc par le plan de relance d'arbitrage. Donc, je relance ma question cette fois au bon moment. Alors je dis pas que les arbitres sont de plus en plus jeunes, mais en tout cas il y a de plus en plus de jeunes arbitres.
Oui, alors t'as raison, je vais juste donner un chiffre. À aujourd'hui, on a 183 arbitres, dont 173 désignables. Alors c'est quoi la différence entre les 10? C'est qu'il y a des gens qui peuvent ne pas avoir totalement finaliser leur dossier. Il y en a qui peuvent être en année sabbatique, pour des raisons qui leur appartiennent, hein, familiales, professionnelles. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même 183 licences d'arbitre, ce qui fait de nous le sixième district de la Ligue en termes d'arbitre. Et on a une augmentation de 18%, enfin 17,88%, et c'est la troisième augmentation dans la Ligue. Donc oui, l'arbitrage en Charente se porte plutôt bien en termes d'effectifs. Alors à cela, il y a quelques raisons, hein, c'est que puisqu'on avait mis en place, et ça faisait partie de l'une de nos priorités, on avait mis en place un plan de relance de l'arbitrage. Donc on a recruté un jeune BPJEPS en arbitrage pour avoir plus de proximité avec les clubs. Donc il nous a organisé avec plusieurs clubs une journée de l'arbitrage qui a eu lieu à Jarnac. Il intervient dans des clubs. Je sais qu'il est allé à Bel Air, il est allé à Leroy, il va aller prochainement à Puymoyen. Enfin voilà, il va dans les clubs qui nous demandent des interventions sur l'arbitrage pour mieux faire connaître les conditions pour être arbitre. Il a organisé donc avec Bernard Vaillant et Hervé Zagot, les patrons de l'arbitrage en Charente, membres de la commission départementale d'arbitrage, ils ont organisé trois sessions on appelle ça des FIA, donc c'est des formations initiales en arbitrage. Il va y en avoir une quatrième qui va se dérouler début avril. Et à la dernière, on a 14 arbitres. Alors, je ne vais pas dire jeunes arbitres parce qu'il y a une question d'âge. Donc, ils ne sont peut-être pas forcément qualifiés comme jeunes arbitres par les statuts fédés. Mais ce sont des gens, les gens qui ont passé, les 14 qui ont été reçus, c'est des jeunes qui avaient moins de 30 ans, quoi.
Oui, et puis c'est des nouveaux arbitres, entre guillemets.
Oui, ah oui, bien sûr. Alors les FIA dont je te parle, c'est réservé, c'est la formation initiale des arbitres.
Oui.
Donc quand Lucas, notre BPJEPS arbitrage, intervient dans un club pour parler d'arbitrage et qu'on lui dit il y a Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Véronique qui est intéressé, après ces jeunes-là participent à ces formations initiales qui se passent sur 2 jours et qui permettent de délivrer la licence d'arbitre. Donc voilà pourquoi on a plus d'arbitres et notamment d'arbitres jeunes.
Par rapport à ça, j'ai deux questions un peu transversales qui ont un rapport avec l'arbitrage. La première, c'est combien de matchs sont organisés en Charente chaque week-end environ? Parce que c'est des matchs où il faut des arbitres pour les arbitrer.
Ouais, je veux pas te donner le chiffre au risque de me tromper. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des arbitres qui doublent dans le week-end. C'est-à-dire qu'ils font un match le samedi et un match le dimanche. Et que aujourd'hui, il nous faudrait effectivement, je pense qu'on est arrivé au chiffre qu'il nous faut pour pouvoir faire des désignations sur tous les matchs de D1, D2. Après, plus on a d'arbitres, si on pouvait avoir plus d'arbitres, on pourrait faire plus de couverture de match, ce qui serait intéressant, mais ça n'est pas tout à fait le cas. En D1, on arrive à avoir 3 arbitres. En D2, c'est pas toujours le cas, et en D3, on n'a qu'un arbitre central.
Et donc, les arbitres, ils sont désignables tous sur le champ et sur la touche, ou il y a des arbitres qui ne font que la touche?
Il y a des arbitres qui ne font que la touche.
D'accord.
Mais il y en a qui font les deux.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on en voit certains, par exemple, en D2 le samedi soir sur la touche, et puis le lendemain en D1 dans le champ. Absolument. Ou à l'inverse.
Absolument.
Et puis, ma deuxième question transversale, c'est est-ce qu'en Charente, on a encore des clubs qui sont en infraction par rapport à l'arbitrage?
Alors, oui, c'est. Je voulais apporter la précision, donc merci de me relancer. Au niveau Ligue, avec ces opérations là que l'on fait, au niveau club de Ligue, on n'a plus aucun club en situation de défaillance au statut de l'arbitrage. Et il me semble qu'il nous en reste une petite dizaine au niveau district.
Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, absolument, absolument. Et puis... de par ses interventions, alors Lucas, il s'appelle Lucas Marlier. Lucas intervient bien entendu avec les membres de la CDA, mais ça permet, si tu veux, de parler d'arbitrage autrement. C'est-à-dire que c'est pas vous êtes en défaillance avec le statut de l'arbitrage, il faut recruter des arbitres. C'est voilà en quoi ça vous pénalise, voilà ce que vous pourriez avoir comme avantage, et voilà comment on peut vous aider. Donc on a, je dirais, une approche pédagogique. Différentes et ça marche bien. On a de plus en plus de clubs qui nous demandent des interventions. Je crois qu'il y a eu Mansle aussi. Tout à l'heure, j'ai cité quelques clubs. Voilà, donc c'est intéressant.
Autre priorité de la part du district, donc tu nous avais signalé tout à l'heure une baisse du nombre de licenciés féminines, c'est forcément la relance de la pratique féminine.
Oui, exact.
Quelles actions vous avez menées pour contrecarrer cette baisse?
D'abord, notre objectif, j'avais dû le dire mais je le reprécise, notre objectif c'est de permettre aux filles de jouer entre elles, aux jeunes filles, oui, de jouer entre elles. C'est plus fidélisant. Hein. Donc sous la houlette de, à la fois de la commission développement du foot féminin et puis de notre nouvelle conseillère technique en charge du développement des pratiques, qui est une jeune fille qui s'appelle Emma Gauthier, on a mis deux grandes actions en place. On a mis les rassemblements, les dimanches du foot féminin. Les dimanches du foot féminin, ça concerne des plus jeunes U6, U9, U10, U11, U12, U13. On en aura eu entre le mois de décembre et le mois de celles qui sont prévues en juin, 4. À chaque fois, il y a une 60aine de filles qui viennent, qui font du foot à 5 exclusivement. Mais peut-être que sur la fin de saison, on essaiera de faire du foot à 8. Et là, l'objectif, c'est, dans un pain club qui a une gamine, deux gamines, je crois qu'à Villebois-Lavalette, ils doivent avoir deux jeunes filles, eh bien, il faut surtout qu'ils viennent pratiquer. Hein, c'est-à-dire qu'on est, sorti dans les rassemblements, les dimanches du foot féminin, on est sorti de la seule pratique en équipe. Il y a des équipes, mais il faut que des clubs qui ont une fille, deux filles, trois filles puissent venir et faire une équipe le temps d'un dimanche pour que les jeunes filles pratiquent.
Donc ça passe par des ententes.
Oui, c'est ça, oui. Mais le temps de, plutôt que de laisser une, deux ou trois filles sur le bord de la touche, eh ben, on fait l'équipe, peu importe comment elle s'appelle, mais ça leur permet de jouer. On est persuadé, quand je dis on, c'est surtout les techniciens, sont persuadés que plus on fait jouer les filles ensemble, et plus on leur donne envie de continuer à jouer au foot. Après, il y a des filles qui joueront avec les garçons, les meilleurs continueront à avoir leur activité avec soit en équipe de filles pures, soit avec des garçons, jusqu'à l'âge légal. Mais il n'y a pas de souci. C'est vraiment une relance de la pratique. On veut qu'un maximum de jeunes filles puissent jouer au foot et jouent entre elles. Donc ça, c'est les opérations organisées par le district. Et puis, on a incité les clubs à faire sur le même modèle des plateaux féminins, mais qui sont organisés par les clubs. Donc entre janvier et juin, on aura une vingtaine de plateaux, pareil sur du foot à 5. Et là, je vais te donner quelques noms, mais il y a Moutier, il y a Soyaux, il y a la CFC, il y a le groupement Linard, Nersac, Fléac, il y a l'AMS Soyaux Garçon, Jarnac, Charente-Limousine, et le groupement de jeunes LAC, c'est-à-dire Lessac, Abzac, Confolens. Donc vous voyez, c'est... la pratique appelle la pratique. Alors c'est vrai que le Covid nous avait fait beaucoup de mal parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de pratiques, notamment chez les plus jeunes, et ça prend bien, soit dans nos rassemblements les dimanches du foot féminin, un par mois, soit sur les plateaux qu'organisent les clubs eux-mêmes.
Et puis ce qui est vraiment intéressant dans ces opérations, c'est que les jeunes filles se rencontrent entre elles. Ça, c'était toujours très intéressant de se rencontrer, et puis c'est potentiellement elles jouent ensemble et puis elles peuvent devenir copines et vouloir rejouer ensemble. Enfin, le concept de rencontre est vraiment très intéressant.
Oui, absolument, absolument. Alors, il y a aussi une autre opération qui parce que on est dans le développement de la pratique. Hein, et là, on parle pas de compétition. Oui. C'est le foot à l'école. Le foot à l'école, c'est une opération qui permet d'attirer des jeunes filles dans les clubs à travers des rencontres entre les clubs et les écoles primaires. Un autre, pour montrer qu'on fait plein d'actions, une autre action, le 14 avril, on aura au district une formation U6, U7, 100% féminine, uniquement ouverte aux femmes, qu'elles soient joueuses, dirigeantes, éducatrices. C'est-à-dire que là aussi, on veut les recentrer le centre d'intérêt à la fois des pratiquantes et des dirigeantes pour ces pratiquantes jeunes filles. Hein. Et puis on a quatre clubs qui ont fait la demande du label école de foot féminin, Jarnac, Moutier, Charente-Limousine et Ruffec. Ruffec qui fait de très très gros efforts et qui, alors là c'est dans le domaine de la compétition, va organiser en avril un tournoi mais sur des catégories d'âge, je crois que c'est 14-17.
D'accord, voilà, dans la lignée du très beau tournoi qu'ils organisent au mois d'août.
Absolument, absolument. Donc là, il y a plein d'initiatives pour relancer. Et encore une fois, on s'aperçoit que le fait d'initier des événements donne envie à des clubs de s'investir. puis un peu c'est la boule de neige qui s'amasse et qui grossit au fur et à mesure de la pratique. Donc c'est une bonne le plan de relance de la pratique féminine est une action qui marche bien.
Vous avez choisi d'écouter Attitude. Merci de votre fidélité. Attitude, c'est 98.3, 90.7, www.attitude.com. Vous êtes bien dans Culture Sport. Nous recevrons Gilles Rouffignat, président du district de la Charente, et qui répond aux questions de Christian.
Et pour continuer dans la touche féminine dans le football, c'est vrai que j'ai découvert sur votre page Facebook, c'était aujourd'hui d'ailleurs, le club des dirigeantes charentaises, ça consiste en quoi?
Ça, alors, on n'est pas, juste pour que les auditeurs s'y retrouvent, on n'est pas sur de la pratique, mais on est quand même sur des réunions, des actions qui concernent les féminines.
Oui.
Eh bien, on a créé un club des dirigeantes féminines. Alors, on a plus de 1000 licenciées féminines, toutes catégories différentes, joueuses ou pas. Et sur ces 1000 licenciées, on a 318 dirigeantes. Donc on a eu l'idée, en s'inspirant d'une action menée dans un district pas loin qui est celui de la Haute-Vienne, de créer un lieu de rencontre, un lieu d'échange, donc de dirigeantes qui auraient envie de se rencontrer, de parler de leurs problématiques, de faire part de leurs besoins de formation, de leurs initiatives, des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien, et donc c'est un lieu de rencontre, d'échange. Le lancement a eu lieu vendredi dernier. Il y avait 10 personnes. Bon, on s'est peut-être pris un petit peu tard et on n'a pas été, on a été moins efficace qu'on aurait pu l'être. Mais voilà, la volonté, c'est de, en gros, c'est les femmes parlent aux femmes dans le monde du football. Alors, quand on voit qu'il y a 318 dirigeantes, c'est quand même important. Et peut-être qu'il y a des dirigeantes qui ont besoin de points de repère, de points d'appui, d'informations pour être encore plus, alors à la fois plus à l'aise et plus efficace dans leur club. Donc voilà l'objet de cette initiative. Bon, qu'on va faire perdurer. Alors la mission a été confiée à Marion Moine. Alors Marion Moine, c'est quelqu'un qui connaît bien le foot. Pourquoi? Elle est membre du comité de direction. Elle a été joueuse, elle a été arbitre, elle a été secrétaire, elle a été coprésidente du club de La Roche-Rivière FC Tardoir avec Georges Bernougeau. Donc elle connaît bien. Bon, d'abord c'est une femme qui parle aux femmes et en plus elle connaît bien le milieu du foot sous toutes ses facettes. Donc c'est elle qui a été chargée par le comité de direction de mener cette action et de la faire vivre.
D'accord. Et puis donc, autre priorité pour le district, c'est lutter contre les incivilités. Alors, avant de nous dire par quelle action, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le nombre d'incivilités qu'il y a eu cette saison jusqu'à présent?
Non, je peux pas te le donner parce que tu m'aurais demandé ça avant. Je t'aurais sorti.
Pardon.
Je peux pas tout savoir de tête. Et il y a beaucoup.
Enfin, est-ce que c'est en progression ou est-ce que c'est en progression dans le bon sens par rapport aux saisons précédentes?
Non, malheureusement, je dirais que c'est stable. J'avais donné une statistique à la dernière AG au mois de septembre à Ruffec. J'avais donné quelques chiffres et en disant que nos incivilités. Alors je parle pas de la violence, là, je parle des incivilités. Hein. Les incivilités, on en voit de plus en plus autour du terrain et de plus en plus dans des fonctions qui ne sont pas les joueurs. C'est-à-dire venant de dirigeants, d'éducateurs ou de parents. Hein. Je parle bien des incivilités. Bon, oui. La violence, c'est pareil. La violence, on a malheureusement quelques cas qui arrivent toutes les saisons. Il n'y a pas plus de violence qu'avant, mais il y en a pas moins non plus. Souvent, c'est des violences qu'on a dans les basses divisions du district, hein, pas en première, moins en première, en deuxième division. Quand je dis basse division, qui est pas d'équivoque, c'est pas péjoratif, hein, mais plutôt dans les niveaux inférieurs. Voilà. Mais les incivilités, voilà, c'est beaucoup autour des matchs de jeunes, voire des plateaux, et c'est beaucoup autour du terrain. Alors, avec différents degrés d'incivilité, hein, t'as l'incivilité, je dirais entre guillemets, de bêtises, et puis t'as l'incivilité de un peu violente, même si ça n'est que verbal. Bon, voilà. Bon, il faut qu'on lutte contre ça. Alors, lutter contre ça, tu vas me dire comment vous allez faire? Bon, d'abord, allô?
Oui. Comment oui, vous allez faire?
Oui. Non, je pensais que ma liaison avait été coupée. Enfin, c'était coupé. Ouais, il y a deux choses. Il y a le curatif et le préventif. Alors, le curatif, c'est quoi? C'est la commission de discipline.
Oui.
Qui fait du bon boulot. qui fait un travail sérieux, un travail objectif. Moi, je rends hommage à la commission qui est présidée par Pierre Laroui, qui fait vraiment un travail comme il se doit. Alors, je voudrais juste rappeler en matière de discipline que une commission de discipline dans un district, elle fait pas ce qu'elle veut, comme elle veut, et la fleur au fusil.
Oui, d'abord, tu veux dire qu'il y a des barèmes ?
Oui, mais déjà, la première étape, c'est de qualifier les faits.
D'accord.
C'est-à-dire, quelle est la nature du fait que l'on reproche au joueur, avec cette fameuse notion de est-ce que c'est dans une action de jeu ou hors action de jeu. Et après, ça donne une typologie de faute, et il y a un barème. Alors, effectivement, où la commission de discipline peut agir, c'est qu'elle peut soit aggraver la sanction parce que le joueur a déjà eu plusieurs fois affaire à la discipline, enfin il y a des facteurs aggravants, soit peut diminuer parce que il y a une notion, c'est involontaire, parce que il y a une prise de conscience du joueur, enfin bon voilà, parce qu'il y a eu des excuses, voilà. Donc il y a une qualification des faits, ça donne un barème, ça donne le quantum de la peine, et après il peut y avoir à la marge minoration ou majoration. Bon, mais c'est pas ce dont je voulais parler. Moi là maintenant, je suis plus sur l'aspect préventif. Donc on a lancé le week-end dernier une action test qui s'appelle Touche pas à mon foot. Le but, c'est de lutter contre les incivilités de toutes les parties prenantes. Alors on a fait ça sur des plateaux U6 U7, sur 3 plateaux, mais on va le retester d'ici la fin de la saison. On va même tester cette action sur la journée nationale des débutants qui aura lieu au mois de juin. Et moi, j'ai la volonté, en espérant être suivi par le comité de direction, de pérenniser, de généraliser cette action dont je vais donner les deux grands principes l'année prochaine, et au-delà des plateaux de jeunes, de le faire sur les compétitions de jeunes. Alors, le principe de l'action, c'est très simple, c'est j'observe. C'est comme les fameux slogans du gouvernement au moment du Covid, c'est j'observe, je constate et j'informe. Alors, sur chaque rencontre, là, on a fait ça sur 3 plateaux, il y avait 2 personnes du club recevant que l'on avait, pour qu'ils soient facilement repérables, habillés avec on les avait dotés d'un chasuble vert, touche pas à mon foot. Et le but de ces personnes, c'était en termes d'organisation, de comportement, de paroles, d'attitudes, de convivialité, c'était de noter ce qui va bien, donc d'observer et de constater ce qui va bien, ce qui va pas bien. Donc il y a derrière ça un travail, on a sensibilisé les gens, on les a formés, informés, formés. Mais le but, c'est deux observateurs qui sont là pour voir ce qui se passe, encore une fois, bien et pas bien. Le but après, c'est de remonter au district ces informations. Et le district, après, pourra traiter avec les commissions concernées. Et parce que ça peut être un problème de discipline, mais ça peut être aussi un problème d'organisation, de prévention, de mauvais aiguillage, de vestiaires qui sont pas bien mis à disposition. Enfin voilà, on n'est pas dans le répressif forcément. Hein. Et donc le but, c'est après que le district puisse travailler par le biais de ses commissions concernées avec les clubs pour améliorer toute l'organisation de ces rencontres et faire en sorte que les incivilités soient de moins en moins fréquentes.
Oui.
Donc c'est de la responsabilisation et de la pédagogie.
D'ailleurs, tu faisais référence au Covid tout à l'heure. C'est vrai que les clubs s'étaient dotés d'un référent Covid. Est-ce qu'on pourrait avoir potentiellement des référents à incivilité?
Eh bien, on n'y avait pas pensé, mais c'est une bonne idée. Bien sûr. Alors, la seule réserve à ton idée, qui est une bonne idée, la seule réserve, c'est un peu comme quand on dit faut un référent Covid, faut un référent sécurité, faut un référent si. À un moment donné, le club, il va dire, oui, mais moi, je vais pas avoir assez de moyens humains.
Bien sûr. Et puis, ça augmente la charge pour des personnes qui cumulent plusieurs casquettes en même temps.
Oui, c'est ça. Mais le principe, c'est une bonne idée. Et encore une fois, ça vient, je parlais de responsabilisation, c'est faire en sorte que, les gens soient concernés par le fait que quand ils mettent leurs gamins sur un stade pour qu'ils jouent, c'est pas pour que ces gamins s'entendent invectiver à longueur de match, soit par un éducateur sur le bord de la touche, soit par des spectateurs, soit éventuellement par les parents de l'équipe adverse. Quoi. Bon, c'est ça. Ça rejoint les notions de respect, de bienveillance qu'on devrait tous avoir en tête, mais ce qui n'est malheureusement pas le cas.
ce qui la normalité devient malheureusement parfois l'extraordinaire, parce que malheureusement. Et donc il y avait un dernier projet d'hiver qui sera booké ou qui sera lancé par le district, et j'avoue que je l'ignore complètement. Qu'est-ce que c'est que le coup de pouce alors?
Alors le coup de pouce, c'est on a décidé sur nos résultats d'une saison sur l'autre, on a décidé d'isoler une somme. Donc cette année on a mis 3 000 euros. Cette somme servira à aider les clubs financièrement sur des projets de structuration de leur club, sur des projets, là j'ai déjà 4-5 demandes. Il y a un projet autour alors de la création d'un tournoi. Alors on ne veut pas comment dire financer les tournois des clubs, mais par exemple il y a un club qui va faire un tournoi féminin pour la première fois de sa vie, et ça mérite d'être aidé. Il y a un autre club qui veut faire un échange avec une autre région, voilà. Donc c'est tout ce qui peut être une aide ponctuelle, et l'idée du coup de pouce, c'est vraiment que les gens comprennent qu'on va pas financer un projet à 1 500 euros, mais on peut donner quelques centaines d'euros qui peut être le déclencheur ou le facilitateur, et qui concerne la vie du club, tout ce qu'il y a dans le domaine du plan d'action, du plan éducatif fédéral. Donc toutes les actions de citoyenneté, de fraternité, de solidarité, voilà. C'est ça. Donc on a lancé ça, et les clubs avaient jusqu'au 31 mars. Et après on va faire au mois d'avril, le bureau va se réunir pour choisir les dossiers et attribuer une somme financière. Voilà.
D'accord.
C'est aider les clubs dans la réalisation de leurs projets. Alors on a mis quelques contraintes. J'ai parlé des tournois. C'est pareil, on va pas financer l'achat d'un jeu de maillot, mais tout ce qui peut apporter de la vie à l'association sportive, au club, et aussi donner aide dans un registre qui n'est pas que le sportif, c'est éligible à notre dispositif coup de pouce.
Et puis c'est vrai que par rapport à votre slogan que je rappelle, proche des clubs, à l'écoute, et utile, eh bien dans ce cas-là, le mot utile prend tout son sens aussi.
Absolument.
Et pour terminer l'émission, on va parler des projets. Alors bien sûr, les premiers projets, c'est dans l'ordre chronologique du calendrier. Il y a forcément tout ce qui est finale de coupe, donc qui se dérouleront à Lebon, les coupes seniors, mais aussi des coupes jeunes, les finales des championnats avec la Champions League, et puis bien sûr la journée nationale du débutant.
Oui. Alors ça va même commencer un petit peu avant, puisque le 1er avril. On va avoir à Jarnac le festival Pitch U13, dont c'est la finale départementale. Donc ça va se dérouler le 1er avril à Jarnac. Donc ça concerne les U13. Il y a 16 équipes qui vont y participer. Après, nous aurons le samedi 20 mai à Lebon les finales des coupes seniors. Le dimanche qui suit, c'est-à-dire le 28. Le dimanche 28, nous aurons à Lebon les finales jeunes et le critérium A7. Et donc, c'est le retour de nos finales de coupe, vous l'avez compris, à Lebon. Et oui. Puis, le samedi 3, on a la journée nationale des débutants aux trois chaînes. Et le lendemain, le dimanche 4, les finales de Champions League qui se dérouleront à Saint-Hériex.
Toujours avec la volonté d'impliquer les clubs dans l'organisation, comme ça avait été d'ailleurs le cas la saison dernière.
Oui, lorsque à Saint-Hériex, oui, pour les finales qu'on fait à Lebon, c'est surtout le district qui va s'investir. Mais effectivement, à Saint-Hériex, le club local va nous donner un coup de main sur l'organisation. Donc ça, c'est les rendez-vous sportifs.
J'ai juste une aparté, Gilles. Tu parlais du critérium A7. En deux mots, est-ce que ça s'est amplifié?
Oui, absolument. La première année, on avait 9 clubs. Là, on en est à 19.
Ah, c'est bien.
Donc, il y a eu un intérêt pour des clubs. Alors, en sachant que la première année, on l'avait aussi lancé en cours de saison. Donc, ça avait peut-être... on l'avait lancé pour permettre aux clubs de fidéliser et de garder leurs licenciés en raison du Covid. Voilà. Donc, oui, ça marche bien, le critérium A7. Alors, ça m'amène à... Il y a deux autres rendez-vous pour les clubs. On va faire en avril-mai. Bon, c'est pas encore fixé, mais j'ai entre le 15 avril et le 15 mai. On va faire des réunions décentralisées pour aller à la rencontre des clubs. Oui. Et leur parler de nos projets, faire le point. Et préparer notre assemblée générale qui aura lieu le 30 juin au Crédit Agricole à Soyaux. Et on aura un dossier très important sur lequel on travaille actuellement avec les clubs, c'est la réflexion sur notre pyramide des compétitions. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une pyramide qui va de la D1 à la D5, avec une D5 qui est relativement clairsemée, avec des poules où des fois il n'y a que 9 clubs, et avec en milieu, on a une pyramide qui n'est pas ventrue, mais qui serre la ceinture et qui repart vers la base après en 4e division. Donc, on a fait un groupe de travail. Alors, comme on parle de pyramide, on a appelé le groupe Khéops 2024, comme les pyramides de Khéops. Oui. Et on a 7 clubs qui représentent toutes les divisions, plus 7 membres du district, des différentes commissions. On a fait une première réunion. La deuxième a lieu, alors c'était le 20, c'était au mois de février, je crois le 27. Et là, on en a une le 27 mars, où on va travailler. Donc, on est en train de réfléchir à quelle pyramide de compétition on va proposer au club. En tenant compte qu'on veut à la fois travailler le haut et le bas de la pyramide. Alors c'est lié, bien entendu, à la réforme des compétitions nationales, qui va certainement voir un afflux de clubs de R3 descendre en D1. Et puis il faut qu'on travaille le haut, mais aussi la base de la pyramide. Alors par exemple, une des questions basiques, c'est qu'est-ce qu'on fait de la D5 ? Est-ce qu'on continue la D5 ? Est-ce que la D4 est encore plus élargie avec une partie de la D5? Est-ce que le foot à 7 peut compenser une éventuelle disparition de la D5 si c'était le choix des clubs, hein? Alors, quand je dis qu'on travaille avec les clubs, on a voulu associer les clubs à la réflexion et la décision sera prise. Il y aura certainement plusieurs projets de présenter.
Sera voté lors de l'AG, en fait, c'est ça?
Oui, alors, et c'est ce qui explique pourquoi on fait l'AG le 30 juin, c'est que si on fait l'AG avant le 1er juillet, donc ce qui est le cas,
oui,
cette réforme des compétitions sera applicable non pas en 2023-24, mais en 24-25. Parce que c'est statutaire, ça. Hein.
D'accord.
Si on avait fait notre AG après le 1er juillet, quelle que soit la date, on prenait un an de plus. C'est-à-dire que c'était applicable qu'en 2025-2026. Donc on a un peu anticipé par rapport à ce qu'on avait prévu. Puisque l'an dernier, on avait fait une AG au mois de septembre à Ruffec, où on avait pu faire toutes nos AG, y compris la financière. Donc là, pour ne pas perdre trop de temps dans l'application, c'est-à-dire faire seulement N+1, on va faire notre AG au 30 juin, et on refera une AG au mois dans l'hiver, une AG strictement financière. Et comme on avait promis au club qu'on ne ferait qu'une AG en présentiel, cette deuxième AG, là, on va dire en novembre ou en décembre, on la fera en distanciel, par vote électronique, mais avec quand même un contact avec les clubs pour qu'ils puissent nous poser leurs questions. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle notre dernier rendez-vous de la saison, c'est l'AG du 30 juin au Crédit Agricole à Soyou.
Parfait. Écoute, tu es vraiment un interlocuteur de qualité. C'est vraiment, on te remercie déjà de la trame de travail que tu nous avais fournie de manière à ce qu'on puisse ensemble faire une émission avec un véritable contenu, et tu as toute notre gratitude là-dessus. C'est gentil à toi d'accepter à chaque fois l'invitation qu'on te lance, y compris des fois dans l'urgence, mais tu réponds toujours présent. Donc c'est un vrai plaisir pour nous de relayer les actions et ta présence aussi au sein de ce district.
Écoutez, merci pour cette appréciation. Je voudrais juste dire par rapport à ça que moi je ne suis que l'émanation du travail fait à la fois par les commissions et par les salariés, en rappelant que bien au-delà d'un slogan et d'une devise, vraiment pour nous, être proche, à l'écoute et utile, c'est notre fil conducteur, c'est notre raison d'être dans le travail qu'on mène au quotidien. Donc j'espère que les clubs apprécient cette façon de faire. Et puis, eh ben, je l'ai dit, on les associe aussi à des réflexions qui sont des réflexions de club, de fond. On pourrait simplement leur présenter le projet en AG. Il me semble important qu'ils participent à la construction de ce projet.
Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup. Donc on te souhaite le meilleur. Continue quand même sur ce chemin, parce que tu es un guide, un phare dans le microcosme du sport charentais. Donc merci encore pour tout. On te dit à très bientôt, Gilles, au plaisir de te retrouver.
Merci à vous pour votre accueil. Merci beaucoup.
Merci Gilles, bonne soirée.
Bonne soirée, Christian.
Attitude 98.3, 90.7.